Verlaine, lui toujours et assez. Je suis né romantique. Et puis, j'eus été si féroce et si loyal. P.V. Paul Verlaine. Maintenant que le bruit intrus s'est tu, que le poète, après les secousses d'obsèques irrespectueuses, rentre par degrés dans la glorieuse impopularité due, maintenant que la foule est retournée à ses besognes, et que les poètes seuls enfin gardent le deuil, il m'est permis de parler de mon maître, de bien lui, abandonnant à mes colères passées, non, récentes, et à mes rudesses de la guerre, les exploiteurs inqualifiables de sa grande mémoire. Il eût fallu que Victor Hugo meure vers 1844-45, au lendemain des Burgraves. Fort de trois ballades, les bœufs qui passent, le pas d'armes, la chasse du Burgrave, des orientales, où il y a une perle, les tronçons du serpent, des quatre recueils de vers intimes rarement politiques, si peu en tout cas, des feuilles d'automne, etc., qui constitueront sa vraie gloire de bon poète de demi-teinte, de son théâtre de ses trois premiers romans, Bugue, Anne et Notre-Dame de Paris, si drôle par place, surtout le théâtre en prose et Anne, nous voudrions qu'il n'eût laissé que cela et eût disparu, contesté. Les fières funérailles, alors. On y eut vu moins de gilets qu'en 1885, mais ce qui aurait été un peu défraîchi, mais rouge, et des chevelures autrement amusantes que les éventails, pluies et capoules actuelles lui flottaient d'hommes éclaircis derrière un char point ridiculement odieux du tout, possédé d'un clergé plus pittoresque encore que messieurs les ordonnateurs de l'administration, si bien brossés que fut leur costume des grands jours. J'oubliais dans l'énumération des œuvres à conserver le Rhin, de cette époque d'ailleurs bien supérieure, je le dis aux voyageurs figés, puérils de Théophile Gautier, et où se trouve l'adorable conte du beau Pécupin. Ah, Gautier, mademoiselle de Maupin, ténèbres et mots et camées, trois chefs-d'œuvre, et c'est tout, et déjà beau. Oui, tout ce qui part des châtiments, châtiments compris, m'emplit d'ennui, me semble turgescence, brume, langue désagrégée. L'art non plus pour l'art, mais incommensurable, monstrueuse, improvisation, bourrime, mais pas même variée, ombre sombre, ténèbres funèbres, fatalité déplorable. Oh, ces contemplations, ces chansons des rues et des bois, manque insolent platement de la moindre composition, plus nul souci d'étonner que par des moyens pires qu'enfantins. Soit il y a deux vers dans les châtiments, ne frappe pas et s'il n'en reste qu'un, serait celui-là. Mais que le fatras incorrect si souvent. Et je ne parle pas du fond, qui est l'antipode de la poésie même, la satirique. Voyez donc Juvénal, voyez donc Dante, et plus près d'Aubigné, Barbier, dont je ne donnerai pas un iambe, pour tous les châtiments du monde. Sans compter que politiquement, le factum en question ira, va, a déjà été contre son but. Il vous tente d'être indulgent à l'objet de tant de cris, de haine, de rancune plutôt, d'imprécations, de malédictions, de huées, et il faut le reconnaître de menaces au bonhomme Napoléon III, qui dut sortir de son rêve le jour où ce pamphlet lui tomba sous les yeux, pour s'ébahir un instant de cet excès d'honneur et de cette indignité, et pour se rendormir à point fermé. Oui, la légende des siècles contient de nobles contes épiques, dont quelques-uns, le petit roi de Galice et Viradnus, peuvent soutenir la comparaison avec tel ou tel poème arthurien de Tennyson. Mais quelle philosophie, quelle théologie, quelle vue sur l'horizon social, quelle pauvreté dans quelle dysenterie sexquipédalienne! Le reste de l'œuvre, d'à partir des châtiments, ne vaut pas l'honneur d'être nommé. Et quand j'aurai avoué qu'il y a des choses dans Les Misérables, c'est Arlequin, et dans 93, laissez-moi retourner au Victor Hugo de Pétrus Borel et de Montpou. Quelqu'un m'a d'ailleurs très courtoisement taquiné sur ce que j'avais nommé Hugo, l'auteur des Ganzi Belsaum à la carabine, pour tout potage. D'abord, oui, il en est l'auteur. L'auteur, il en est. Ensuite, Garci Belza dépasse toute son œuvre. Il y a enfin là du cœur et des sanglots et un cri formidable de jalousie, le tout exprimé magnifiquement dans un décor superbe. Trouvez-moi un autre de Garci Belza dans tous ses volumes. C'est qu'Hugo n'a jamais parlé d'amour que banalement ou en homme qui, du moins c'est ce dont témoignent ses écrits, fut toute sa vie envers les femmes un simple pacha. Tu me plais, tu me cèdes, je t'aime, tu me résistes, va-t'en. Tu m'aimes pour mon nom, peut-être pour mon physique bizarre, pour ma tête faite. Tes anges. Ni crainte, ni espoir, ni douleur, ni joie. Le bonheur du coq et son chant de cuivre après. Hugo est mort. Ses détenteurs ont eu leur jour. Échelle double et apothéose laïque. Moi qui connus l'homme dès avant 1870 et quelque temps depuis. Qui même eut à me louer, comme j'allais devenir ce pauvre veuf-ci, de sa commisération et de son amitié, qui poète ait plus que le droit de m'intéresser à la manière d'être glorieux et glorifié de mon maître au tombeau, je le prends, le mien de jour, et c'est aujourd'hui, et je le répète, si je suis légion. Hugo est mort trop tard. Il s'est survécu, mais son seul héritage sérieux est nôtre, et nous le défendrons, mes beaux messieurs, du 1er juin 1885.